Bien, bonjour et bienvenue à tous. Donc nous avons vu la semaine dernière comment la question qui nous occupe cette année, le confucianisme est-il un humanisme, cette question en présuppose une autre, à savoir le confucianisme est-il une philosophie ou une religion ? Question qui trouve historiquement son origine et sa formulation au XIXe siècle, au moment où la géographie intellectuelle européenne est occupée à découper le champ du savoir en disciplines distinctes et en catégories conceptuelles qui se traduisent en termes institutionnels, c'est-à-dire dans le cadre des universités européennes modernes, qui sont elles-mêmes découpées en départements. Donc ce sont précisément ces disciplines académiques et ces catégories conceptuelles dont nous avons hérité et qui informent largement encore, qui enfin disons conditionnent encore pour une bonne part nos modes de questionnement, nos approches et nos pratiques intellectuelles et universitaires encore près de deux siècles plus tard. C'est pour cela que c'est important justement d'en prendre conscience et de s'en souvenir. C'est ainsi que l'enseignement associé à Confucius s'est trouvé déplacé de la catégorie philosophie, dans laquelle il avait été situé d'emblée par les jésuites, et les philosophes, comme on les appelait du XVIIIe siècle, ce XVIIIe siècle en tout premier lieu donc français. Donc Confucius et son enseignement donc s'est trouvé déplacé de cette catégorie de philosophie vers la catégorie religion du fait de l'expulsion de la Chine en dehors du champ de ce que certains ont appelé la philosophie des professeurs du XIXe siècle, professeurs que sont éminemment les philosophes professionnels allemands, Hegel en tête, suivis de près par les Français. Nous parlions il y a quelques années de Victor Cousin, donc, qui a été véritablement le porte-parole de Hegel en France. Alors, la semaine dernière, nous avons vu de quelle manière le confucianisme, en tant que isme, est apparu en revanche comme une invention anglaise. Et comment il s'est trouvé intégré comme en tant que système religieux, au même titre que le christianisme, dans le champ d'étude d'une nouvelle discipline universitaire, la science des religions, ou religion comparée, qui prend naissance dans la seconde moitié du XIXe siècle, donc dans un contexte principalement anglophone. On remarquera que cette qualification de science est maintenant appliquée aux religions, alors que pendant la première partie du XIXe siècle, c'est une qualification qui ne pouvait s'appliquer qu'à la philosophie. Et on remarquera également que cette nouvelle science des religions s'appelle d'un autre nom religion comparée. Et nous savons tous que désormais, en fait, cette méthodologie comparatiste fait partie intégrante de notre paysage académique et universitaire, à tel point que c'est devenu pratiquement inévitable de faire du comparatisme, quelle que soit la discipline de sciences humaines dans laquelle on se trouve. Alors, tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, nous observons donc des déplacements successifs du contenu doctrinal associé à Confucius, alors non seulement dans la géographie intellectuelle européenne, mais aussi, on pourrait dire, dans sa représentation géopolitique. En effet, le déplacement se fait, comme je viens de le dire, entre les catégories philosophie d'une part et religion d'autre part, mais aussi entre les grandes puissances européennes que sont la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Et on rappellera que la France et l'Angleterre en particulier étaient en outre les deux plus grandes puissances coloniales du moment. Nous avons vu ainsi comment le missionnaire écossais et protestant on pourrait dire de la secte des congrégationalistes, ce missionnaire James Legge, qui a passé donc 34 ans de sa vie en Chine avant de devenir professeur de chinois en titre, donc à Oxford. James Legge prend carrément le contre-pied des jésuites, donc des missionnaires catholiques, dont on a vu que enfin, les Français sont quand même en première ligne. Donc il prend le contre-pied des jésuites en affirmant sans ambages que ce que lui-même Legge est le premier à appeler Confucianism, donc confucianisme, est une religion. Là, il y va vraiment, enfin carrément. Donc, il affirme que le confucianisme est une religion au même titre que et à part égale avec le christianisme. Il va plus loin en disant que c'est une religion qui fait référence au même Dieu unique que les chrétiens, qui s'appelle donc God en anglais et Shangdi donc en chinois. C'est ce que Legge, on l'a vu la dernière fois, affirme dans un exposé de 1877, qui est lu donc in absentia, puisque Legge est à ce moment-là déjà en poste à Oxford, lu devant une assemblée donc de missionnaires protestants présents en Chine. Donc c'est une assemblée qui se tient à Shanghai. Et l'exposé de Legge provoque un véritable tollé donc parmi ses congénères missionnaires. Mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est que Legge va trouver donc un appui et une, on pourrait dire une caisse de résonance pour son point de vue, non pas donc auprès d'un congénère missionnaire, mais auprès d'un collègue universitaire, c'est-à-dire dans la collaboration qui se noue entre Legge et son collègue de l'université d'Oxford, Max Müller. Donc vous avez tous ces noms, ces titres sur la diapositive. Donc, nous avons vu que Max Müller, qui est donc d'origine allemande, après toute une formation donc universitaire allemande, entame une carrière académique anglaise à Oxford. Alors, c'est une carrière qui n'est pas de tout repos, puisque en 1860, Müller se voit refuser la chaire de sanskrit pour laquelle il était pourtant tout désigné. Donc il y a, en fait, je vous passe le détail, mais il y avait une véritable bataille rangée donc autour de la création de cette chaire. Et je peux vous dire que nous connaissons un petit peu les mêmes batailles rangées ici au Collège de France. Je ferme la parenthèse tout de suite. Donc, après s'être vu refuser cette chaire, Müller donc, se voit proposer quelques années plus tard, en 1868, la chaire de philologie comparée, dont il devient le premier titulaire. Alors, c'est un paradoxe que de constater que le fait d'avoir raté, en quelque sorte, cette chaire de sanskrit que Max Müller a vécu, et on le comprend comme un échec cuisant, et qui l'a marqué vraiment pour le restant de toute sa carrière universitaire. Donc ce ratage, en quelque sorte, lui a paradoxalement ouvert la possibilité de délimiter un nouveau champ d'études, qui est donc la science des religions, et qui se distingue très radicalement des approches déjà existantes de la religion, comme le peut l'être donc la théologie ou même l'histoire des religions. Donc, en 1870, peu après donc sa nomination à cette chaire de philologie comparée, Max Müller donne au Royal Institution de Londres une série de quatre conférences qui se trouvent plus tard publiées sous le titre Introduction to the Science of Religion, donc l'introduction à la science de la religion. Il faut souligner au passage que Max Müller, dans les années 1870, était devenu en quelque sorte une star académique, car il avait un remarquable don pour ce que nous appellerions aujourd'hui la communication, et il faisait salle comble partout où il donnait des conférences, à tel point que Max Müller a donné son nom aux instituts Goethe, c'est-à-dire donc l'équivalent de nos alliances françaises, aux instituts Goethe établis en Inde, hein, qui donc les instituts Goethe en Inde sont connus sous le nom de Max Müller Bhavan. Alors, c'est vraiment tout un symbole. Donc, Max Müller approche James Legge, son collègue à Oxford, pour la première fois en 1875, pour lui demander de contribuer à la série qu'il lance aux presses universitaires de Oxford, donc à l'Oxford University Press, une série dont le nom est resté extrêmement fameux, qui s'intitule donc les Sacred Books of the East, donc les livres sacrés de l'Orient. Donc Max Müller soumet le projet de ces Sacred Books of the East aux presses universitaires d'Oxford en 1876 dans ces termes. Il s'agira donc de produire « A Translation of the Sacred Books of the Five Great Oriental Religions », c'est-à-dire donc il s'agira de la traduction des livres sacrés des cinq grandes religions orientales. En réalité, dans cette monumentale série qui comptera au total 50 volumes, donc 49 volumes de traduction parus entre 1879 et 1902, plus un index qui paraîtra en 1910, donc vous voyez que la publication s'étale sur une trentaine d'années, Cette série, qui, soit dit en passant, a été reprise récemment en 2007 par les éditions Routledge à Londres, donc, qui est encore en usage aujourd'hui. Cette série sera en fait divisée selon la répartition décidée par Max Müller en fait en six religions orientales du livre, ce qu'il appelle the six so-called book religions, et non pas cinq. Alors, il distingue d'une part the religion of the Brahmins, c'est-à-dire donc le brahmanisme védique ou l'hindouisme, auquel il consacre la majorité des volumes, donc 21 volumes. Ensuite, vous avez the religion of the followers of the Buddha, c'est-à-dire le bouddhisme, auquel s'ajoute le jaïnisme, une autre religion de l'Inde qui est souvent apparentée donc au bouddhisme, auquel sont consacrés 12 volumes. Ensuite, vous avez donc the religion of the followers of Zarathustra, c'est-à-dire le zoroastrisme, en 8 volumes. Ensuite, the religion of the followers of Confucius, c'est-à-dire le confucianisme, et dans la foulée, the religion of the followers of Laozi, c'est-à-dire le taoïsme. Donc, confucianisme et taoïsme se voient attribuer 6 volumes au total. Et enfin, vous avez the religion of the followers of Mohammed, c'est-à-dire donc l'islam, auquel sont consacrés seulement 2 volumes. Donc, vous voyez un petit peu la proportion, justement, l'importance proportionnelle attribuée donc à chacune de ces religions du livre. Ainsi donc, avec le judaïsme et le christianisme, ces 6 religions orientales du livre constituent les 8 grandes religions du monde, donc les world religions, selon donc Max Müller. Donc, dans la première conférence de cette Introduction to the Science of Religion, datée de 1870, Max Müller écrivait déjà ceci. We possess the whole sacred canon of the Buddhists in various languages, in Pali, in Sanskrit, in Burmese, Siamese, Tibetan, Mongolian, and Chinese. And it is our fault entirely if, as yet, there is no complete translation in any European tongue of this important collection of sacred books. The ancient religions of China again, that of Confucius and that of Laozi, may now be studied in excellent translations of their sacred books by anybody interested in the ancient faith of mankind. Donc je traduis, nous possédons l'intégralité du canon sacré des bouddhistes dans différentes langues, en pali, sanskrit, birman, siamois, tibétain, mongol et chinois, et c'est entièrement notre faute s'il n'existe encore aucune traduction complète en aucune langue européenne de cette importante collection de livres sacrés. En revanche, les anciennes religions de la Chine, celles de Confucius et celles de Laozi, peuvent désormais être étudiées dans d'excellentes traductions de leurs livres sacrés par quiconque s'intéresse à l'ancienne foi de l'humanité. Alors, Max Müller fait ici référence donc au travail de son collègue James Legg, qui entre 1861 et 1872 publie donc sa série des Chinese Classics, donc des classiques chinois en 8 volumes. Et il y aura donc ensuite une deuxième édition partiellement revue en 5 volumes, publiée donc à Oxford entre 1893 et 1895. Et nous verrons que ces Chinese Classics font l'objet de très nombreuses rééditions. Alors, de quoi s'agit-il donc dans cette série des Chinese Classics que James Legge traduit intégralement donc en anglais? En fait, il regroupe ce que la tradition chinoise appelle donc les cinq classiques, hein, les Wu Jing, et les quatre livres, c'est-à-dire les Se Shu, à savoir donc ce que le néo-confucéen Zhu Xi du XIIe siècle de l'ère chrétienne donc isole dans le canon confucéen pour former donc un nouveau corpus canonique. Alors si on les remet dans l'ordre traditionnel chinois, vous avez donc d'abord le Yi Jing ou le livre du changement, hein, ce que Legge appelle The Yi Qing or Book of Changes. Ensuite, vous avez donc le Shu Jing ou le livre des documents, ce que Legge appelle The Shu Qing or Book of Historical Documents. Ensuite, vous avez donc le Shi Jing ou le livre des poèmes ou livre des odes, ce que Legge appelle le Shi Jing or Book of Poetry. Ensuite, vous avez donc le compendium sur les rites, le Li Ji, hein, le livre des rites, Li Qi or Book of Rites. Ensuite, le Chun Qiu, donc les annales des printemps et automnes, que Legge traduit en anglais par The Spring and Autumn Annals. Accompagné donc du commentaire de Zuo, hein, Zuo Zhuan, The Commentary of Zuo, et enfin donc les quatre livres, à savoir donc The Lun Yu or Analects of Confucius, donc les ce que nous connaissons en français surtout sous le titre des Entretiens de Confucius. Ensuite les deux chapitres que Zhu Xi a isolés dans le livre des rites, à savoir donc le Ta Xue, la grande étude, en anglais The Great Learning, et le Zhong Yong, que nous connaissons sous le titre que lui a donné Couvreur, donc l'invariable milieu, et que Legge traduit pour sa part The Doctrine of the Mean, et enfin donc The Works of Mencius, donc les œuvres de Mencius, ou en chinois le Mengzi. Donc, c'est tout naturellement que Max Müller demande à son collègue sinologue, James Legge, de contribuer à son projet de Sacred Books of the East pour ce qui est des classiques chinois. Mais il faut quand même préciser au passage que Max Müller entretient malgré tout vis-à-vis de la Chine le même type de préjugés que ses contemporains, notamment ses contemporains allemands, ses contemporains et compatriotes allemands, sur une Chine radicalement autre, autrement dit qui n'a rien de commun avec l'Europe, hein, et qu'il différencie donc de l'Inde. Hein. Pour Max Müller, l'Inde, c'est véritablement l'origine, la racine de l'Europe et notamment des langues indo-européennes, alors que la Chine est renvoyée, elle, dans une altérité tout à fait radicale. Donc il ne faut pas oublier à ce titre que Max Müller a été bel et bien formé à l'école philosophique allemande, qui est encore très fortement influencé à son époque par le grand Hegel. Alors, Entre 1879 et 1891 paraissent donc les volumes de traduction de James Legge consacrés donc aux Sacred Books of China, hein, c'est-à-dire donc les livres sacrés de la Chine dans cette série donc des Sacred Books of the East. Vous en avez quatre volumes sur le confucianisme et deux sur le taoïsme. Alors, les quatre qui concernent le confucianisme regroupent donc le Shujing, c'est-à-dire donc le livre des documents, je cite, les portions religieuses du Shijing, hein, c'est-à-dire du livre des poèmes ou des odes, hein, et le Xiaojing, c'est-à-dire le livre de la piété filiale. Hein, ça, c'est donc le premier volume des livres sacrés consacrés à la Chine. Le deuxième volume est occupé par le Yijing, ou le livre du changement ou des mutations. Et vous avez enfin deux volumes occupés par le Liji, le livre des rites. Donc là, ça vous fait en tout quatre volumes sur le confucianisme. Et enfin, les deux volumes sur le taoïsme sont respectivement donc un volume de traduction du Laozi, autrement connu sous le titre de Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, et l'autre volume est consacré donc au Zhuangzi, c'est-à-dire les œuvres de ce philosophe du IVe siècle avant l'ère chrétienne, donc Zhuangzi, qui est donc classifié comme, à tort ou à raison, comme taoïste. Alors, on voit donc que Legge est probablement celui qui a fait le plus pour imposer le confucianisme en tant que isme dans le cercle des grandes religions universalistes du monde. Et on peut aussi dire que grâce à sa collaboration avec Max Müller, son collègue à Oxford, considéré comme le père de cette nouvelle science des religions, James Legge a eu le mérite d'extraire le débat sur le confucianisme comme religion en dehors donc du cercle missionnaire pour l'introduire dans le cercle académique, scientifique et intellectuel, beaucoup plus large et mondialisé. Dans ce sens, cette catégorie confucianisme comme religion entre véritablement dans les débats scientifiques de la fin du XIXe siècle. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois en 1877, James Legge utilise le terme confucianisme pour la première fois pour faire référence à une religion dans ce fameux exposé donc intitulé Confucianism in relation to Christianity de 1877, donc confucianisme dans son rapport avec le christianisme. Et quelques années plus tard, en 1880, James Legge persiste et signe dans une série de conférences, parce que James Legge lui aussi donne des conférences un petit peu tous azimuts. Alors, il donne des conférences devant l'église presbytérienne d'Angleterre, la Presbyterian Church of England, donc, sur les religions chinoises. Ça se passe à Londres en 1880 et ces conférences sont publiées sous le titre « The Religions of China, Confucianism and Taoism Described and Compared with Christianity ». Donc, les religions de la Chine le confucianisme et le taoïsme décrit et comparé donc avec le christianisme. Et dans ses conférences, James Legge écrit ceci: The questions have often been put to me, but is Confucianism really a religion? Was it anything more than a system of morals intended for the government of human society? The most extended expression of this sentiment is given in a recent number of the China Review, where the writer says, et James Legge donc cite, Confucianism, pure and simple, is, in our opinion, no religion at all. The essence of Confucianism is an antiquarian adherence to traditional forms of etiquette, taking the place of ethics. A skeptic denial of any relation between man and a living God, taking the place of religion. While there is encouraged a sort of worship of human genius combined with a set of despotic political theories. But who can honestly call this a religion? Donc, fin de la citation. Et Legge poursuit en disant, certainly, if this were a fair account of all there is in Confucianism, I would not call it a religion, but the representation is absurdly unfair. Donc je traduis. Les questions suivantes m'ont été souvent posées. Mais le confucianisme est-il vraiment une religion? Était-ce quelque chose de plus qu'un système de moralité destiné au gouvernement de la société humaine? La formulation la plus développée de cette opinion se trouve dans un numéro récent de la China Review, donc la revue de la Chine, où l'auteur dit ceci, donc début de la citation de la China Review, le confucianisme pur et simple n'est selon nous pas une religion du tout. L'essence du confucianisme est une adhésion passéiste à des formes traditionnelles d'étiquette, alors ceci en lieu et place d'éthique, c'est également un déni sceptique de toute relation entre l'homme et un dieu vivant, et ceci en lieu et place de religion. Et tout cela se passe pendant qu'on voit encourager, dans le confucianisme donc, une sorte de culte du génie humain combiné avec un ensemble de théories politiques despotiques. Mais qui peut honnêtement appeler cela une religion? Fin de citation. Donc là, l'auteur qui parle dans la China Review donc, est quelqu'un qui a bien compris donc, le message qui est passé donc, par les jésuites. Et dans le comment dire les lumières européennes et avant tout françaises, hein, c'est-à-dire donc d'un Confucius qui prône une sorte de d'humanisme tout à fait laïque, combiné donc avec un despotisme oriental. Alors Legge poursuit en disant ceci: certes, si c'était là une présentation juste de tout ce qu'il y a dans le confucianisme, je ne l'appellerai pas une religion. Mais une telle représentation est au contraire absurdement injuste. Donc on voit que ici, James Legge énonce, on ne peut plus clairement, la distinction, voire l'opposition irréductible entre, d'un côté, le confucianisme vu comme religion, et de l'autre, le confucianisme vu comme, je cite, une sorte de culte du génie humain et comme un, je recite, un déni sceptique de toute relation entre l'homme et un dieu vivant. Autrement dit, ce que nous appellerions donc le confucianisme vu comme humanisme. Et on a vu récemment que pour un indianiste éminent comme Sylvain Lévy, dans les années 1920, le bouddhisme indien peut au contraire à la fois figurer parmi les religions indiennes tout en étant enfin à la fois être une religion et être considéré comme un humanisme. Donc il y a là en fait bon quelque chose de tout à fait problématique. Alors afin de mieux consolider son idée du confucianisme comme religion, James Legge s'appuie très lourdement sur l'autorité de son collègue Max Müller. On peut voir que on peut dire que Legge et Müller en fait s'appuient mutuellement l'un sur l'autre. James Legge continue dans son texte The Religions of China de 1880 en disant ceci: I will now give a view of some of the religious thoughts of the fathers of the Chinese people, the fruits of which are found in the beliefs of their descendants down to the present day. In doing this, I will go back to a period long anterior to the composition of the most ancient Chinese books and glance with you at some of the primitive written characters. We shall be in the position of the Aryan philologists who, from the root words of Sanskrit and other kindred languages, try to give us pictures of the earliest Aryan life, as, for instance, Professor Max Müller in his essay on comparative mythology. Je traduis. Je vais maintenant donner un aperçu de quelques-unes des pensées religieuses des pères du peuple chinois, dont les fruits se trouvent dans les croyances de leurs descendants jusqu'à nos jours. Ce faisant, je vais remonter jusqu'à une période bien antérieure à la composition des livres chinois les plus anciens et jeter avec vous un regard sur quelques-uns des tout premiers caractères écrits. Nous serons dans la position des philologues aryens, c'est comme ça que Legge appelle donc les philologues qui s'occupent du sanskrit, donc, qui, à partir de mots racines du sanskrit et d'autres langues apparentées, tente de nous fournir des images de la vie aryenne la plus ancienne, comme le fait par exemple le professeur Max Müller dans son essai sur la mythologie comparée. C'est un essai qui a été publié dans un volume qui s'appelle de manière tout à fait charmante « Chips from a German Workshop », c'est-à-dire les copeaux d'un atelier allemand, où Max Müller nous ouvre son atelier avec justement en fait toutes les rognures et les copeaux donc qui tombent de son atelier. James Legge poursuit donc en nous donnant un exemple concret de ce qu'il compte faire justement en jetant un regard, comme il dit, sur certains caractères écrits. Il nous dit ceci: Our first example shall be the character Tian que vous avez donc sur la diapositive. Ici, je vais essayer d'utiliser ici sur la diapositive. Donc Tian ici. Que Legge traduit par the symbol of heaven, c'est-à-dire donc le ciel. Its application must have been first to the visible sky, but all along the course of history, it has also been used as we use heaven, avec un H majuscule, when we intend the ruling power whose providence embraces all. Professor Max Müller says, in Chinese, Tian denoted sky or day, and the same word, like the Aryan dew, is recognized as the name of God. Donc je traduis, notre premier exemple sera le caractère Tian, le symbole du ciel. Son application a dû être tout d'abord au ciel visible, c'est-à-dire le ciel physique au-dessus de nos têtes, mais tout au long du cours de l'histoire, il a été aussi utilisé de la même manière que nous utilisons le mot heaven, avec un H majuscule, donc ciel avec un C majuscule, lorsque nous voulons parler de la puissance dominante, the ruling power, que Legge écrit avec un P majuscule, la puissance avec un P majuscule, dont la providence embrasse tout. Le professeur Max Müller dit, et là Legge cite son collègue Müller, donc en chinois, Tian dénotait le ciel ou le jour, et ce même mot, tout comme le mot arien Diu, est reconnu comme étant le nom de Dieu. Alors, l'ironie dans tout ça, c'est que Max Müller, en principe, ne connaissait pas un mot de chinois. Donc, c'est quand même tout à fait ironique que James Legge puisse se référer à l'autorité de Max Müller, y compris donc, pour ce qui est de la philologie du chinois. Alors, ce qu'il faut nous rappeler ici, c'est que James Legge et Max Müller se côtoient à Oxford dans les années 1880-1890, à un moment où l'Empire britannique est à l'apogée de sa puissance. C'est, selon la formule consacrée, l'Empire où le soleil ne se couche jamais. Et c'est une période où le public britannique et plus largement donc anglophone est mis en contact avec des horizons bien au-delà de l'Europe. Donc là, nous sommes dans un contexte qui est déjà en quelque sorte mondialisé. Ce qui fait dire à... Là, vous avez donc la couverture de cet ouvrage auquel je viens de faire référence, The Religions of China, de James Legge. Là, je vous montre quand même au passage une lettre manuscrite autographe de James Legge avec quelques caractères chinois qui, bon, sont pas d'une graphie très très adroite, mais enfin, bon, on voit que ici, James Legge nous parle de thé. De thé médicinal, des vertus enfin du thé médicinal. Donc c'est une lettre tout à fait familière, et on voit que James Legge, qui a passé presque 35 ans de sa vie en Chine, est quelqu'un qui connaît bien donc vraiment la vie quotidienne en Chine. Là, je vous remontre au passage les photos de Max Müller. Donc alors. Ma diapositive. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai pu en faire ? Oui, voilà. Le sinologue américain Norman Girardeau. Alors, ça s'écrit comme pour notre actrice nationale Annie Girardeau. Donc Norman Girardeau, qui est l'auteur de cet ouvrage que vous avez en deuxième position sur la diapositive, The Victorian Translation of China, James Legge's Oriental Pilgrimage, paru aux presses universitaires de Californie en 2002. Donc, la traduction victorienne de la Chine, le pèlerinage oriental de James Legge. Donc, Norman Girardeau, dans cet ouvrage, parle d'une ère léguienne de la sinologie qui concerne donc les années en gros entre le début des années 1870 et la fin des années 1890, autrement dit les trois dernières décennies du 19e siècle. Donc symboliquement, c'est une période qui va entre 1873, c'est le moment où James Legge revient en Angleterre, et c'est aussi le moment où Stanislas Julien, donc le sinologue professeur au Collège de France, meurt à Paris après avoir occupé pendant de très longues années la chaire de langue et littérature chinoise et tartare manchou ici au Collège de France. Et donc 1897, qui est la mort de James Legge à Oxford, pendant que Édouard Chavannes, successeur donc de toute la filiation justement des sinologues du Collège de France, redonne ses lettres de noblesse à la sinologie française, puisque Chavannes est élu au Collège de France en 1893. Donc, il faut aussi rappeler que c'est dans ces années, donc charnières entre les années en gros 1890 et 1910, que le missionnaire jésuite français Séraphin Couvreur traduit les mêmes classiques chinois que James Legge en français et en latin, ce qui lui a valu donc le surnom de French Legge, de Legge français. Donc, on peut donc dire qu'à la fin du XIXe siècle, il existe une véritable internationale sinologique qui se joue principalement entre les deux grandes puissances coloniales de l'époque, à savoir la France et l'Angleterre, donc une sinologie qui est alors étroitement liée à l'indologie, même si on continue donc à opposer de manière typiquement essentialiste l'esprit chinois et l'esprit indien. C'est ainsi qu'un auteur anonyme d'une recension justement des volumes des Sacred Books of the East fait remarquer en 1902 ceci: Confucius was the supreme representative of the Mongolian mind, which is the very antithesis of the Indian, prosaic, practical, unimaginative, and altogether averse from metaphysical speculation. C'est-à-dire, donc, Confucius était le représentant suprême de l'esprit mongol, qui est l'antithèse même de l'esprit indien. Donc, cet esprit mongol que cet auteur qualifie de prosaïque, pratique, sans imagination et tout à fait contraire donc à la spéculation métaphysique. Donc, vous voyez comment en fait les deux disciplines de la sinologie et de l'indologie vont de pair, mais en même temps, comment l'esprit chinois et l'esprit indien sont posé comme antithétique. Alors, le sommet donc de cette période, on pourrait dire que c'est 1893, le Parlement mondial des religions, the World Parliament of Religion, qui est organisé à Chicago par les unitariens et universalistes de l'Association religieuse libre, où le confucianisme est officiellement intronisé parmi les religions du monde, au même titre que le christianisme, l'islam et le bouddhisme. Alors, je terminerai aujourd'hui en disant que cette période léguienne, pour reprendre l'expression de Norman Girardot, prend fin assez brutalement, justement, au tournant du XXe siècle et surtout après la Première Guerre mondiale. Bien que les traductions de Legge aient fait l'objet d'innombrables rééditions, y compris d'éditions piratées, et qu'elles soient toujours largement utilisées aujourd'hui, la tonalité change du tout au tout, donc à partir de la toute fin du XIXe et du début du XXe siècle, avec le retour en force de la France dans le domaine sinologique, avec la France qui dispose d'une base permanente dans sa colonie indochinoise. Avec l'EFEO, l'École française d'Extrême-Orient, qui est alors basée à Hanoï. Bien sûr, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais l'EFEO existe encore et est encore fournit en fait des bases pour les sinologues français qui veulent être formés sur le terrain. Donc là, comment dire, là, justement, ce tire à la corde entre les grandes puissances européennes et ces grandes puissances coloniales, donc, continue dans l'histoire du XXe siècle que nous allons donc reprendre la prochaine fois, avant d'aborder donc un autre volet de notre investigation. Merci de votre attention et à la semaine prochaine, j'espère. Merci.